Radio Grand Ciel présente Un Jardin Perché, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Cazal. Au micro, Christiane Blain. Notre jardinière habituelle, Dominique Chevillard, est encore en vacances pour un mois et très gentiment, Michel Jourdain, qui fait des chroniques à propos de jardinage dans les hebdomadaires locaux, a bien voulu faire cette chronique du jardinage sur nos ondes. Michel Jourdain, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, nous en sommes au mois de janvier. Et au mois de janvier, que faut-il faire dans le jardin?
Alors, au jardin, janvier arrive, c'est aussi les grands froids qui peuvent arriver. D'ailleurs, il y a un petit dicton mais qui concerne plutôt décembre, mais c'est valable aussi. Si décembre est sous la neige, la récolte, elle protège.
Donc là, vraiment, on a de la chance.
On est dans
si
cette période.
S'il y a de la neige.
Voilà, là, il y a de la neige. Sous la neige, il y aura 0 degré et pas moins 20 degrés.
Oui, et donc on est à peu près certain qu'il va y avoir de la neige. Il fait déjà très froid.
Donc, cette période-là, c'est une période de froid, mais qui ne demande pas de protection particulière. La neige joue ce rôle. Mais en dehors de neige, la température peut descendre très bas. Et à ce moment-là, le jardinier doit intervenir pour protéger ses plantes, fragiles ou pas d'ailleurs, puisque certaines dites rustiques ne résistent jusqu'à moins 15 degrés. Mais après, c'est un petit peu difficile.
Ah oui, donc si jamais... Il y a de la neige et surtout de la glace, c'est ça?
C'est en
si la température atteint moins 15.
Il peut y avoir ni neige ni glace, mais la température peut descendre par période sèche à moins 15, moins 20.
Alors là, moins 15, ça, moins 20, c'est alerte.
Là, c'est grande alerte, oui.
C'est-à-dire, alors?
À ce moment-là, il va falloir sortir tout l'arsenal de protection dont dispose le jardinier. Alors, à commencer par s'occuper des pots.
Alors, les pots qu'on n'a pas pu déménager parce qu'ils sont trop lourds.
Qui accueillent les cultures d'été, les floraisons d'été, etc.
Oui, vous voulez dire les géraniums.
Voilà, alors tous ces pots-là peuvent être rentrés avant les périodes de froid,
oui.
Et rester à l'abri dans des locaux, locaux peu chauffés, mais au-dessus de 0 degré.
D'accord.
Et pour les autres, ceux qu'on ne peut pas rentrer, donc les plus gros, là, il va falloir sortir un arsenal de protection qui vont on va entourer ces pots d'un plastique à bulles sur une ou plusieurs épaisseurs, suivant le degré de froid attendu.
Oui.
Et puis, au-dessus, pour la partie aérienne de la plante, si on la conserve, par exemple, des ostas, on n'a pas le feuillage qui reste l'hiver, mais les racines sont à protéger, qui sont dans le pot.
Oui.
Donc là, on va y mettre une protection d'un voile d'hivernage, qu'on appelle, et suivant la... Là aussi, le froid, on va y mettre une ou plusieurs couches. Au pied de ce pot...
D'ailleurs, on peut dire que c'est très joli. Quand toutes les plantes ont des voiles comme ça, magnifique.
Ça remplace la neige par du blanc.
Oui,
le blanc
on se croirait voilages. Dans des films. C'est très vaporeux, c'est beau.
Oui, c'est très beau. Et au pied du pot, il va falloir protéger du froid les racines de ces plantes qui sont dans le pot. Donc là, on va y mettre de la paille... du bois broyé, des paillis de lin ou de chanvre sur une bonne épaisseur de façon à ce que le froid ne pénètre pas à travers le pot vers les racines.
Ah oui, c'est
voilà
ça.
Pour les grands pots. Et le jardin, oui, on va arriver au jardin, mais je voudrais revenir quand même sur les pots. Où mettre ces pots, ceux qu'on peut déplacer.
Ah oui, bien sûr.
Alors là, on va choisir une exposition, bien sûr pas à l'est, parce que les grands froids arrivent par l'est et le nord, donc deux expositions à ne pas utiliser.
En fait, pour être un bon jardinier, il faut être aussi un bon géographe.
Oui, monsieur, tout le monde a une girouette dans son jardin, je pense.
Ça, je crois pas.
Et puis, alors, le côté sud, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas non plus le meilleur endroit. Parce que le côté sud, lorsqu'il va y avoir des remontées de température, même
chaud.
En plein hiver, le mur va refléter la chaleur et d'un seul coup, il va y avoir des amplitudes de différence de température beaucoup trop importantes pour que la plante, elle va souffrir de cette chose-là. Elle peut même en mourir des différences de température.
Donc vraiment, il faut faire très attention.
Le plein
attention.
Sud, c'est pas trop indiqué. Je préconise plutôt une orientation ouest de ces plantes.
Je crois que pour tout le monde, l'ouest, c'est bien quand même.
Voilà, c'est bien. Mm. Oui, c'est une bonne orientation en général pour un jardin.
Oui.
On va en venir peut-être sur les plantes qui restent en terre.
Voilà, les arbustes.
C'est ce que vous aviez posé la question auparavant. Donc les arbustes et les autres plantes vivaces qu'on va laisser en terre, soit on va supprimer la partie aérienne des tiges qui sont devenues sèches et qui sont pas très agréables à regarder. Des fois, c'est pas très esthétique. Donc, on va supprimer. D'autres, par contre, ont des tiges qui vont donner des feuillages ou des fleurs fanées qu'on va pouvoir garder, qui ont un aspect esthétique intéressant. Celles-là, on va les laisser. Sur les hortensias, je préfère, moi, laisser les boules d'hortensia qui vont elles-mêmes fournir une protection sur les bourgeons qui sont juste en dessous, notamment en cas de chute de neige. La neige va rester sur les boules et pas se mettre sur les bourgeons qui sont juste en dessous, qui seront comme ça protégés.
Oui, ça m'affole un peu d'entendre ça parce que c'est vrai que c'est quand même pas beau quand on laisse ces boules d'hortensia toutes mortes dans un jardin.
En général, jusqu'à la moitié de l'hiver, elles vont garder une petite couleur rouge, un petit peu.
Ça, c'est joli quand c'est un
peu
comme ça.
Et ensuite, effectivement, elles vont devenir grises. Donc, à ce moment-là, on regardera autre chose que les hortensias dans ce jardin.
On va dire ça, nos auditeurs. Oui.
Et puis, alors, les autres plantes vivaces on va recouvrir où il n'y a pas de tige aérienne, on va le recouvrir cette fois-ci d'un tapis de bois broyé. Alors, le bois broyé, il faut expliquer un petit peu ce que c'est. On peut le faire soi-même avec un broyeur qu'on achète en jardinerie ou ailleurs.
Vous préconisez cela pour les grands jardins?
Oui, un jardin moyen. On l'a vite rentabilisé parce que si on achète ce bois broyé en jardinerie, ça représente une somme relativement importante quand il en faut des grandes quantités, alors que sur un jardin moyen entouré de haies, toutes les haies vont servir à faire du bois broyé chaque fois qu'on
les taille. Puis on nettoie en même temps.
On nettoie en même temps. Donc on évite d'aller à la
déchetterie,
jeter à la décharge. Et tout c'est un des principes de la permaculture.
Oui, c'est ça. Peut-être, justement, parlons un peu de la permaculture encore, parce que c'est un des grands principes qui revient à la mode.
Oui. Alors, l'objectif final de la permaculture, quand un jardinier qui consacre beaucoup de temps à ce travail en faisant de la permaculture, il va arriver à obtenir, le but final, c'est d'obtenir zéro apport de matière extérieure dans le jardin et zéro déchets qui sortent de son jardin. Tout doit être utilisé. Oui. Les matières qui sont dans le jardin vont servir d'engrais et de support de culture, et on va rien rejeter à l'extérieur, en déchets. C'est ça l'un des principes. Mais tout le monde n'est pas obligé d'arriver à ce point extrême. On peut très bien faire de la permaculture sur une partie de cette permaculture, cultivée en butte, puis cultivée en lasagne. Alors la lasagne,
c'est une
succession de couches de matières nutritives qu'on entasse les unes au-dessus des autres. Pendant, justement, c'est l'hiver que ça se prépare, ça. À la fin de l'été, au moment où on commence à débarrasser le jardin, on a tout un tas de matières utilisables qui sont des déchets de culture, mais c'est les herbes, parties sèches, etc. Et ces matières-là, on va les entasser comme une lasagne de la cuisine, en couches successives, en alternant une couche sèche, une couche humide. On peut démarrer très bien, par exemple, sur un jardin qu'on souhaite établir sur un endroit qui n'a jamais été cultivé, va être très très difficile, avec des cailloux, etc. On commence par étaler une couche de carton d'emballage. Mais des cartons d'emballage qui ne sont pas peints complètement, avec de la peinture industrielle, ou avec qui comportent des plastiques dans ces moments-là. Mais les cartons d'emballage, les grands cartons de couleur.
Moi, j'avais vu des journaux.
Des journaux, moins, parce que l'encre d'imprimerie, maintenant, elle est moins toxique qu'avant, mais je préfère le carton.
Ah, bah, c'est bien de le dire, voilà.
Le carton d'emballage, et là, les vers de terre vont se régaler de ça. Et au-dessus, on entasse toutes ces couches successives, en commençant par peut-être des coupes de branches, de haies, des petites branches, des petites branches. Au-dessus, on va étaler les dernières tontes de gazon. Alors, si on a fait, là, en ce moment, il n'y a plus beaucoup de tontes de gazon, mais on a pu en faire une réserve dans un coin du jardin pendant l'été. On étale une couche là-dessus. Au-dessus, on va remettre une couche de sèche qui peut être de la paille, par exemple, ou des matières sèches comme le bois broyé. Et on étage tout ça. Et de temps en temps, on va pouvoir mettre une couche de compost ou de terreau, mais plutôt vers la fin du tas. Et à ce moment-là,
ça va pourrir tranquillement.
Et au-dessus, on va y mettre toutes nos réserves de feuilles qu'on aura ramassées à l'automne.
Donc ce sera joli comme ça.
Alors voilà. Et alors, au printemps, la couche de feuilles, elle va empêcher les petites graines qui sont contenues dans le compost de germer. Au printemps, on enlève les feuilles en surnombre. Certaines, ce seront déjà décomposées d'ailleurs. Et on a un terrain prêt à l'emploi.
Ah oui, alors ça, c'est vraiment très, très bien. Donc, en fait, on n'a pas tellement de travail si on suit bien vos recommandations.
Oui. On arrive à faire un jardin avec le moins d'efforts possible. Alors, et ce système, il permet aussi l'habitation du jardin par toutes les petites bestioles qui, elles, travaillent pour nous, les vers de terre et autres.
Oui. Alors, parlez-moi du dôme.
Alors, le dôme, c'est une protection pour les arbustes qu'on va laisser avec leurs petites branches, pas très hautes, jusqu'à 1 mètre éventuellement. Là, on va disposer, commencer par y mettre, intercaler un peu de paille sèche entre toutes les petites branches, mais sans les tasser. Ensuite, par là-dessus, on va y mettre des branches de chêne qui sont courbées, souvent, on peut couper des branches de chêne en forme de courbe et qui vont pouvoir former un dôme.
Ah oui.
Et par-dessus ce dôme, on va encore y étaler, mais là, une couche de paille plus épaisse et plus tassée, si on peut dire, et par là-dessus, un plastique pour empêcher l'eau de pénétrer sur la paille et que ça ferait moisir cette paille.
Ah oui.
Mais alors là, on a quelque chose d'étanche et on risque d'amener de la moisissure à l'intérieur de ce dôme. Donc il va falloir provoquer des courants d'air à la base de ce dôme.
Ah,
et là, ce que je fais, je mets des petits morceaux de tuyaux de plastique qui font de 5 à 10 cm de diamètre. J'en mets 4 à peu près. Et donc l'air peut entrer et circuler dans ce dôme. Mais il va pas amener vraiment du froid.
Oui.
Donc, parce que la paille elle-même provoque du chaud à l'intérieur.
Eh bien, un grand merci. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci infiniment, Michel Jourdain.